RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG en direct sur RMC, la radio, RMC Story, la télé, les grandes gueules avec aujourd'hui chef d'entreprise Emmanuel Devilliers. Nous sommes avec Bruno Poncet, le cheminot, et puis Barbara Lefebvre, l'enseignante. Et dans une heure, nous serons rejoints par Marion Maréchal. Si tu te sens Le Pen, c'est le titre de son livre. Il parle de sa vie, elle y parle de son engagement politique, elle y parle des propositions aussi, celle qui est députée européenne. Le livre est aux éditions Fayard, elle sera avec nous tout à l'heure, Marion Maréchal, à 11h. En attendant, la deuxième heure des GG, c'est maintenant de 10 à 11. On va évoquer l'Iran, le positionnement du porte-avions Abraham Lincoln. Vous regardez ça comme nous, avec intérêt, peut-être avec inquiétude. Est-ce que, à votre avis, le président Trump et les États-Unis vont frapper l'Iran? On en parlera à 11h-20. À 10h20, faut-il interdire les espaces No Kids? En fait, tout est parti de la discussion sur l'offre commerciale, vous savez, dans le TGV, de dire voilà, on va faire des voitures sans enfants. Maintenant, il y a une députée de la France Insoumise qui dit il ne faut surtout pas avoir d'offres commerciales sans enfants. Alors elle veut interdire les espaces No Kids. On en parlera tout à l'heure à 10h20. En attendant, on va s'intéresser au voyage de Ségolène Royal à Alger.
L'audience que vient de m'accorder Monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune prouve sa volonté de dialogue dès lors que le respect et la considération sont également au rendez-vous. Il faut faire reculer les postures politiciennes, les provocations, les discours qui déchirent de la part de ceux qui ne veulent pas que l'Algérie avance et qui ne veulent pas encore admettre la souveraineté nationale de l'Algérie, son rôle diplomatique dans le monde, sa décision de non-alignement, sa liberté totale de choisir ses alliances et ses causes. Et moi, je respecte profondément cela.
Ségolène Royal est depuis maintenant un mois à la tête de l'association France-Algérie. Elle a fait le voyage pour rencontrer le président Tebboune en privé. Elle lui a serré la main. Ils ont beaucoup parlé. Et là, maintenant, en fait, elle dit il est temps pour la France de faire des gestes. Elle va même, d'ailleurs, jusqu'à dire il faut transmettre à l'Algérie le dossier complet des essais nucléaires dans le Sahara, mesurer l'ampleur des dégâts et faire réparation. Voilà ce que dit Madame Royal.
C'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que
une bouteille d'oxygène pour Barbara Lefebvre.
C'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que Ségolène Royal va en Algérie. Bon, c'est normal, quand tu es reçu par quelqu'un, tu te montres sympathique à l'égard de la personne qui t'a reçu, courtois. Mais enfin, à ce point-là, c'est vraiment effarant. Pas un mot pour notre compatriote Christophe Glaize, qui est depuis 7 mois enfermé dans les geôles algériennes uniquement pour avoir rencontré un opposant au régime algérien. Christophe Glaize, d'ailleurs, ce soir, puisque c'est les 7 mois qu'il est en prison, il était condamné à 7 ans de prison. Il y a une grande soirée au Bataclan, et Bruno en parlera dans un instant, organisée par Reporters sans frontières, parce que tu y vas, Bruno. Donc pas un mot sur Christophe Glaize. Et puis, alors, surtout, elle se fait le porte-parole des revendications algériennes. Lorsqu'elle dit il faut arrêter les provocations, etc., alors on se dit, bon, peut-être qu'elle parle des deux côtés. Non, elle vise la France. Oui. Or, qui crache sur la France matin, midi et soir, c'est le régime algérien. Tebboune, il en fait même un argument électoral, politique, en quelque sorte, politique. C'est-à-dire que finalement, tous les problèmes de l'Algérie, Dieu sait qu'il y en a, c'est pas de notre faute, c'est le colonisateur français il y a plus de 70 ans. Tout ça a quand même été effarant, et on peut avoir un peu honte de ce qu'a fait Ségolène Royal, non?
Tu as honte ou pas? Est-ce que vous avez honte? 32-16 pour le dire au GG, ou au contraire, on a besoin de Ségolène Royal comme émissaire pour apaiser les choses?
Je retraduirai le propos d'Olivier Truchot il y a un instant. Du côté de Madame Royal, qui en fait veut acquérir une stature internationale, puisqu'elle a toujours des ambitions, les politiques n'arrêtent jamais leur carrière. Quelqu'un m'avait dit un jour, est-ce que vous connaissez une carrière de grand politique qui se termine bien? Ça se termine toujours mal. Donc elle effectue cette visite sans concerter qui que ce soit. Donc c'est une visite intempestive et à tout le moins débonnaire. Et du côté du pouvoir algérien, c'est évidemment une instrumentalisation biaisée Il suffit de prendre qu'un seul exemple. Quand elle proclame mot pour mot, il faut faire reculer les provocations. Mais les provocations, c'est pas les provocations de la France, sont les provocations de l'Algérie. Donc c'est navrant et particulièrement critiquable, effectivement.
Bruno.
Moi, je peux comprendre qu'elle veuille pacifier les relations avec la France et l'Algérie. Ça peut être le rôle d'une femme politique. Le seul problème, c'est que effectivement, quand tu vas là-bas et que tu sais qu'on a un Français journaliste qui est en prison et pour des raisons qui sont quand même plus que fallacieuses, ce serait quand même bien qu'elle en parle. Ça me rappelle tous ces hommes politiques qui recevaient à un moment donné la Chine, qui recevaient à des pays où tu sentais que chez eux il se passait des trucs. Je te parle même pas quand on va faire la Coupe du Monde au Qatar ou l'Arabie Saoudite, alors qu'on découpe des journalistes dans leurs ambassades. Bah, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même faire le taf et lui dire, voilà, monsieur Tebboune, ok, c'est bien qu'on discute tous les deux, mais ça serait bien quand même de sortir le journaliste, ça serait quand même déjà un premier geste. Et après, on pourra peut-être discuter, parce que ils l'ont fait avec Boualem Sansal, parce qu'ils savaient qu'ils avaient Glaize avec, à la place. Hein. Et comme disait Olivier, je pense qu'aujourd'hui, il va quand même être temps, quand tu fais de la politique, moi je veux bien, mais il y a quand même des valeurs qui sont... Et surtout quand tu dis que tu fais de la politique française. Nous, en France, on est toujours en train de dire... on est les inventeurs des droits de l'homme et machin. Mais à un moment donné, quand tu vas dans des pays où certains droits de l'homme sont pas respectés, c'est bien de leur dire, en fait. Et puis, elle a peur de quoi? Il va quand même pas l'enfermer dans une tôle à ça, à la place de Glaize. Donc, à un moment donné, ben, elle parle. Et puis, c'est son rôle.
Manque
moi,
de
je suis
courage,
toujours un peu inquiet, moi, de ces hommes politiques qui font de l'entrisme dans des pays. Tu vois, on a aujourd'hui Glucksmann qui arrête pas de te dire, ouais, je veux être homme politique français. Ben, il a commencé par être homme politique géorgien. Moi, je trouve que c'est comme un vrai problème, en fait.
Ouais, et Glucksmann, voilà, il laisse une balle perdue pour Glucksmann.
Ah, ben, excuse-moi, mais Glucksmann, aujourd'hui, qui te dit qu'il fait pas de l'entrisme pour
le terrain du combat des droits de l'homme, Glucksmann, tu peux pas le prendre en défaut.
Pas, bah,
pardon, c'est un erreur à gauche qui dénonce le régime iranien.
Enfin, pour
qui...
le reste, quand tu vas t'acoquiner avec une dictature, je trouve que c'est quand même pas très, enfin, à un moment donné, faut savoir ce que tu fais de ta vie, hein. Bah, donc les valeurs, c'est quand même pas rien.
Excuse-moi, mais à gauche, ceux qui s'acoquinent avec les dictatures, c'est pas du côté de Glucksmann, pardon, hein.
Bah, lui, en tout cas, il l'a fait.
Qui nous parlait d'alliance bolivarienne.
Ben justement,
pays libre.
Madame Royale qui avait appelé à voter Mélenchon, hein, dernière présidentielle. Mm-hmm. D'ailleurs, je pense je trouve que hier, elle a fait encore mieux que ses amis de l'OGU à la télévision algérienne. Parce qu'on se rappelle, hein, il nous avait expliqué même que il allait embrasser le drapeau algérien, je sais pas quoi. Ou que Rima Hassan qui nous explique que l'Algérie est la plus grande des démocraties qui existent au monde. Bah écoutez, qu'elle aille le dire aux jeunes Algériens qui, pendant des années, entre 2019 et 2021, ont manifesté dans les rues, c'est le mouvement du Hirak, et pour renverser Bouteflika, ce qu'ils ont réussi à faire. Et puis ensuite, ils se sont tamponnés Tebboune, ils ont manifesté contre Tebboune, et on sait comment le régime algérien traite ceux qui s'opposent à lui. Donc voilà, et ben ça, Madame donc Royale est venue se soumettre, se comporter en dhimmi. Donc je pense que le régime algérien est fier et heureux.
Est-ce que c'est vraiment de la soumission ou c'est plutôt une Madame bons offices si
Ah
tu
non
veux.
Non, elle s'est
c'est-à-dire
elle se soumet.
Elle dit au régime publiquement ce qu'il a envie d'entendre.
Bah, je pense que Madame Royale n'a pas encore compris qu'elle avait pas, été élue présidente de la République. Elle en rêve tellement. Alors elle s'est trouvée ambassadrice des pôles. Maintenant c'est l'ambassadrice du gouvernement algérien. Donc je pense que là par contre elle a une opportunité pour devenir ministre, elle peut devenir ministre
si ça peut permettre
du gouvernement algérien,
anglaise.
Mais que Madame Royale travaille officiellement pour le régime algérien, plutôt que de venir emprunter les éléments de langage, quand elle dénonce, je cite, elle dénonce un lobby néocolonial en France. Mais de qui elle parle, cette brave dame? C'est qui le lobby néocolonial en France qui voudrait aller recoloniser l'Algérie? Non, merci beaucoup. Ça va bien. Au contraire, on voudrait bien qu'ils reprennent leurs OQTF. Oui, oui. Et quand Madame Royale dit, faut respecter la souveraineté algérienne. Mais l'Algérie, elle respecte la souveraineté française quand elle veut pas récupérer ses OQTF, dont une partie, j'ai bien dit, dont une partie sont des criminels. Comme la meurtrière de Lola. Mmh. Donc excusez-moi, je ne sais pas où est Madame Royale ne vit plus sur la même planète que nous. Je crois qu'il faut qu'elle retourne au pôle.
Il y a beaucoup d'amateurs de foot qui écoutent RMC. C'est tout simplement ce qu'on appelle un but contre son camp.
Et je rappellerai juste une chose. Vous avez vu le pupitre qui est devant elle en arabe, c'est normal, et en anglais. Même pas écrit en français sur le pupitre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vraiment la francophonie, on n'en a rien à faire. Et j'ai une pensée pour le peuple kabyle, parce que justement, notre collègue Christophe Glaize, s'il est enfermé, c'est parce qu'il a donné la parole aux kabyles, et les kabyles sont écrasés par le régime algérien depuis tant et tant d'années, et il faudrait rappeler justement comment le FLN a traité les kabyles.
Ce soir, il y a une soirée donc pour Christophe Glaize.
À partir de 19h30, je crois. Il y a une soirée au Bataclan qui est organisée avec entre... avec Reporters sans frontières pour récolter des fonds pour aider Christophe Glaize, parce qu'à un moment donné, entre les avocats et tout ça, le seul sujet, c'est qu'aujourd'hui, si tu parles avec des gens qui suivent bien le dossier, ils te disent qu'il y a un vrai sujet, c'est Barreau, quoi.
Jean-Noël Barreau.
Ouais, qu'est-ce que fait diplomatie française? Ils sont hyper inquiets. Parce que pendant longtemps, on leur a dit, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et à la fin, Christophe Glaize, il a pris 7 ans, quoi. Et
puis, oui, c'est toujours de dire, ne faites pas de vagues. Oui,
tu te rappelles de la visite de monsieur Barreau il y a presque un an chez monsieur Tebboune. Donc, assis tout sagement, comme madame Royal, un peu, les fesses au bord du siège. On fait des petits sourires. On se soumet. C'est exactement ce qu'avait fait monsieur Barreau à l'époque pour nous expliquer que grâce à ça, on allait libérer Boualem Sansal. Les Allemands qui ont libéré Boualem Sansal. Voilà.
Boualem Sansal qui devrait rentrer à l'Académie française.
On l'espère aujourd'hui qu'il va rentrer à l'Académie française.
C'est bien.
C'est aujourd'hui le vote. Mais donc, monsieur Barreau a fait la carpette, a fait le tapis devant monsieur Tebboune. On n'a rien obtenu. Madame Royal, c'est même plus le tapis.
Monsieur Barreau.
Noël, bonjour Noël. Bienvenue
oui,
Noël.
Bonjour. Bonjour Barbara, bonjour
Bruno,
Bruno et
Emmanuel.
Emmanuel
mon cher voilà. Noël, qu'est-ce que vous en pensez de ce voyage de Ségolène Royal alors, dites-moi.
Alors qu'est-ce que j'en pense? Donc déjà bon, vous me connaissez un petit peu parce que je suis déjà intervenu à propos de l'Algérie déjà au GG. Donc moi, qu'est-ce que j'en pense de ce voyage? Bon, je pense que ce voyage est nécessaire déjà pour mettre un petit peu les choses au point. Alors peut-être que ça peut paraître parfois maladroit, il y a peut-être quelques maladresses qui ont été faites, mais bon, quand j'entends que les provocations viennent surtout de l'Algérie, moi ça me fait bondir. Il y a des provocations effectivement qui viennent du régime algérien. Moi-même je suis un opposant au régime algérien, je suis militant au Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, parti majoritairement kabyle d'ailleurs, qui rappelle à madame Lefebvre, voilà. Qui revendique ouvertement l'instauration d'une république laïque en Algérie. Alors moi, je suis vraiment laïque. Mais ceci dit, par rapport à tout ce qui se passe et ce qui s'est passé en Algérie entre l'Algérie et la France, je suis désolé, mais les provocations, elles ont commencé par la France. Au niveau colonial, ça a commencé au niveau colonial. Tous les massacres qui ont été commis, ils ont été
Maintenant, ce régime, l'Algérie est libre, l'Algérie a son destin.
Et les barbaresques, alors, voilà. Et les Ottomans, on va remonter là. Ah ben non, mais si on, tant qu'on y est, et le peuple kabyle, puisque vous parlez du peuple kabyle, il a été colonisé.
N'insultez pas les Français qui sont morts aussi en Algérie, monsieur.
Le peuple kabyle, il a été colonisé, arabisé et islamisé.
Noël, c'est bon, elle est derrière nous.
Puisque vous dites Noël que c'est la France.
Attendez, j'ai parlé du peuple charentais tant qu'à faire. Moi, j'appelle de Charente. Donc voilà, le peuple kabyle, je suis très très bien placé. Les kabyles, ce sont les plus authentiques de tous les Algériens. Vous entendez?
C'est même le peuple autochtone, monsieur. Ils ont été arabisés et islamisés.
Moi aussi, je suis de souche berbère, je suis chaoui.
Justement.
Je suis comme un kabyle, exactement.
Donc les kabyles ont été colonisés par les arabes.
Mais voilà. Noël, souvenez-vous, alors il faudrait vérifier, mais je crois que il était candidat Emmanuel Macron quand en Algérie il avait parlé des crimes contre l'humanité.
Oui. Février 2017.
En février 2017, Noël, puisque vous refaites la guerre d'Algérie, Emmanuel Macron est candidat.
Crime contre l'humanité.
Voilà, il n'était pas encore président de la République et lui-même avait provoqué un tollé en disant qu'il fallait parler de la colonisation française en Algérie comme crime contre l'humanité. Donc, il avait fait déjà le nécessaire, si vous voulez. Donc, là, aujourd'hui,
on sert le régime algérien en ressassant sans cesse les mêmes choses. Le régime algérien qui est issu du FLN ne vit que grâce à ça.
La
rente coloniale. Donc, ne jouons pas ce jeu-là. Passons à autre chose. Tout ça est dans les livres d'histoire. Il y a beaucoup d'Algériens qui vivent en France. Les jeunes Algériens
qui sont passés à autre chose.
Et en fait, on vous fait le jeu de Tebboune en ressassant toujours les mêmes trucs.
Et justement, quand elle dit, Ségolène Royal, qu'il faut ouvrir les archives nationales, elle ment parce que les archives ont été ouvertes. Les seules archives qui restent fermées aujourd'hui sont les archives qui sont à Vincennes. Et elles sont fermées pour des raisons de sécurité, notamment pour les Algériens entre eux, car il y avait des Algériens qui étaient du côté français. Et pour éviter qu'il y ait, jusqu'à aujourd'hui, des rétorsions contre les familles d'Algériens, d'Arki, etc., cette partie-là des archives ne seront pas données au régime qui est ce régime-là.
Alexandre,
donc madame, en plus, Ségolène Royal raconte n'importe quoi sur les archives.
Noël, on va écouter Alexandre qui est avec nous aussi, qui est maraîcher du côté de la Haute-Garonne. Bonjour Alexandre.
Oui, bonjour.
Est-ce que vous êtes de l'avis de Noël ou
pas
plutôt
du
critique?
Tout, mais il faut arrêter. Ça fait 60 ans que c'est passé. Une guerre, c'est moche. Il y a des malheurs de tous les côtés. Mais on est en 2026 maintenant. Il faut avancer, quoi. Faut être plus ferme. Faut qu'ils libèrent le journaliste. Et faut être plus ferme. Faut mettre des sanctions. C'est bon. Il faut arrêter de s'excuser pendant des années. C'est comme si nous, on demandait aux Allemands de s'excuser encore pour ce qu'ils ont fait pendant la guerre de 40. Oui. Et maintenant, il faut passer la 5e. Il faut arrêter toutes ces conneries. Et ces politiciens qui vont.
On pourrait quand même.
On pourrait leur demander de s'excuser à propos de Schumacher et.
Non, mais c'est juste chose que de parler les bons. C'est-à-dire qu'avec l'Allemagne, avec qui on s'est affronté pendant le 20e siècle, aujourd'hui, c'est le pays qui est le plus proche de nous, sans doute en Europe, en tout cas, dans les échanges économiques, etc. Bah, en tout cas, si, c'est notre premier client, et on est premier client de l'Allemagne. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, avec l'Algérie, on reste bloqué, mais parce que c'est le pouvoir en place. Moi, à mon avis, le jour où le pouvoir change, il est rajeuni, renouvelé, et que les Algériens prennent leur destin en main.
Mais vous vous souvenez pas quand Monsieur Macron.
Dans un pays où 50% de la population
et quand Monsieur
a
Macron,
25 ans, quoi.
Monsieur Macron avait fait une visite en Algérie, je m'en rappelle. Il s'était promené dans les rues. Il y avait eu des caméras qui avaient filmé. Et les jeunes Algériens lui disaient, mais Monsieur Macron, on s'en fiche, nous, de la colonisation. Nous, c'est pas notre problème. On veut avancer. On veut que l'Algérie avance. Donc, les jeunes, le peuple algérien veut tourner la page. Le peuple algérien veut avancer. Quand Madame Ségolène Royal dit, ceux qui ne veulent pas que l'Algérie avance, mais ceux qui ne veulent pas que l'Algérie avance, c'est le FLN. C'est justement eux qui ne veulent pas que ça avance. Le peuple algérien, il veut, sinon la jeunesse algérienne, elle s'en irait pas de ce pays. Elle ne fuirait pas ce pays.
Allez-y, Alexandre, pardon.
Et Madame Royal, maintenant, il faut qu'elle arrête, qu'elle prenne sa retraite et qu'elle se fasse oublier, parce que tous ces gens-là, tous ces politiciens, ils nous polluent l'esprit avec des conneries qui ne servent à rien. Et il faut qu'ils aillent, maintenant, il faut qu'ils arrêtent. Il faut avancer, il faut qu'on ait toute cette élite qui nous gouverne, là, il faut changer. Il faut un cap pour la France.
Surtout quand on prend Alexandre, la retraite à 60 ans. Alexandre, la faute à ceux qui l'ont nommé aussi à la tête de cette association.
C'est quoi cette association?
C'est une association qui avant était présidée par Arnaud Montebourg. Oui. Mais Arnaud Montebourg, quand il a soutenu le collectif pour Boualem Sansal, plouf, il s'est fait éjecter de la.
Et rien qu'en vous écoutant, Alexandre, on ressent toute la richesse de l'histoire de France avec votre accent.
Oui, merci.
Merci Alexandre et merci à Noël. On était en Haute-Garonne et en Charente.
Et le burnous d'Abdelkader, on va pas le rendre parce qu'il a été offert à la France par le fils d'Abdelkader, qui était officier de l'armée française. Donc je vois pas pourquoi
il
on le rendrait.
Le burnous d'armée.
Je crois qu'il est au château de Chantilly.
Ségolène Royal en Algérie, est-ce que vous pensez que c'est le voyage de la honte? Oui ou non? On va regarder. Oui, 92%. Voilà, hop, problème réglé. Est-ce qu'il faut interdire les espaces No Kids du côté de la France Insoumise? On ne veut plus qu'il y ait d'offres commerciales où on dit pas d'enfants. Mais aujourd'hui, les enfants doivent être partout. Et il faut interdire les espaces qui veulent interdire les enfants. On est à l'interdiction de l'interdiction. Va comprendre, Charles. Il est 10h20. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Il est 10h25, vous êtes avec les Grandes Gueules. Et si vous avez raté les GG, si vous ratez les GG aujourd'hui, vous avez les podcasts à votre disposition. C'est sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Et dans les podcasts, vous avez non seulement l'émission, mais vous aurez là, aujourd'hui, si vous écoutez les podcasts, vous aurez une chanson d'Emmanuel Devilliers dédiée à Barbara Lefebvre. Et vous aurez un poème qu'a envoyé un auditeur des Grandes Gueules. Oui, il y a des vers pour Michel qui a écrit un poème. Enfin, Il a parodié la chanson « Chez ces gens-là » de Jacques Brel et il l'a mis transposé pour les Grandes Gueules avec un couplet dédié à chaque GG. Mais on vous laisse découvrir ça dans les podcasts. 10h25, on va s'intéresser à ces fameux espaces. Alors en anglais, on dit « no kids », en français, on dit « pas d'enfants ». En fait, la polémique est partie, vous savez, de l'offre de la SNCF, l'offre commerciale, qui veut qu'il y ait une voiture plus cher, mais dédié uniquement aux gens qui ne veulent pas d'enfants. Et donc là, la République
est en danger.
La réplique est venue d'une députée, j'ai dit LFI, pardon, c'est du groupe Lyotte, Liberté, Indépendance et Outre-mer.
Oui, parce que alors, les espaces No Kids, c'est pas uniquement dans les trains, ça se développe, c'est devenu visiblement une demande commerciale, ces zones sans enfants pour être tranquilles. Donc il y a des restaurants, des hôtels, des plages, des piscines sans enfants. Et donc, peut-être c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a poussé cette députée à réagir. Maintenant, un espace No Kids à la SNCF. qui est quand même être censé transporter tout le monde, puisque c'est du service public et c'est payé notamment par nos impôts, enfin une partie. C'est Madame Constance de Pélichy, députée Lyotte, qui prépare une proposition de loi pour tout simplement interdire les espaces no kids. Alors, est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'il faut une loi ou est-ce que ça va trop loin?
Non mais attends déjà, on va remettre un peu les choses en ligne parce que déjà
ministre des Transports des GG.
Non, puis déjà il y a un truc, déjà
on parle. J'ai fait un peu
non mais ouais, je m'en doute bien. Déjà si vous aviez lu le très bel éditorial de madame Apolline de Malherbe, grande journaliste d'une grande maison dans la Tribune, grand journal, qui explique un petit peu ce qui se passe. En fait, cette offre-là, c'est une offre business qui est valable que sur les trains, des trains bien précis où les gens prennent le train pour bosser, pour aller au boulot. Donc en fait, on n'est pas dans du no kids et pas des moments où les gamins prennent le train.
Bah, si, parce que dans l'offre, il y a marqué sans enfants.
Oui, mais c'est normal, Olivier. À 7h45, un lundi matin, cette offre No Kids, elle est hors vacances scolaires et hors week-end. Donc forcément, les gamins, à 7h45, s'ils prennent le TGV, pour Paris et Nantes, par exemple, où Apolline disait que c'était 145 euros le billet, j'imagine bien quand même que ça va être un peu compliqué pour mettre les gamins là-dedans alors qu'ils devraient être à l'école. Donc en fait, si tu regardes, si t'analyses un peu le truc, c'est juste n'importe quoi, cette polémique. Et hier mon président Saint-Homme.
Jean Castex.
Maître Castex. Hier, a remis un peu le truc en ligne.
Allez, c'est beau le syndicalisme.
Non, mais ouais, voilà. Bah, attends, c'est fini. Moi, j'ai quand même une carrière à finir. Moi, j'ai une retraite à 70 ans. Faut que j'y aille. Non, mais par contre.
Nous avons un jaune.
Voilà, alors pire qu'un jaune. Alors là, je sais même plus quelle couleur. Je suis orange. Là, j'ai carrément. Mais en fait, par contre, il y a un truc. C'est que moi, je trouve que.
Un révolutionnaire en Ray-Ban.
Voilà. Mais je trouve que dans les trains, nous, dans les trains, on a dans certains trains, et c'est les intercités, on a des espaces pour que les gamins jouent. Ok. Je pense que, effectivement, le train, tu l'as dit, certains. Alors l'intercité est un train subventionné par l'État comme les TER. Le TGV ne l'est pas. Hein. Et donc en fait, je pense que
c'est l'image de la SNCF qui est engagée.
Ouais, non mais c'est surtout c'était.
Non mais au-delà ça, d'accord.
C'est une belle connerie.
Mais hein. Tu sais très bien qu'il y a une tendance néanmoins à multiplier les espaces no kids.
Olivier, sois
honnête. Les enfants en fait deviennent un problème. On ne supporte plus les enfants.
Olivier, sois honnête. Regarde bien, écoute-moi bien. Moi, je prends le TGV régulièrement.
Oui.
Des fois, je me retrouve dans un carré où je suis avec une maman seule ou un papa seul avec ses deux gamins en bas âge. Oui. Tu crois que j'ai envie de, moi, mon trajet de 6 heures pour descendre à Nice, tu crois que c'est le trajet de l'année que je fais là? Avec des gamins qui hurlent, avec des gamins qui, leur feutre se retrouve sur ma main un peu, assez rapidement. L'autre fois, ça m'est arrivé. Moi, ça m'a fait marrer. J'avais un nouveau tatouage de gamin. Dit, ah, ouais, oui, super, continue. Fais-toi plaisir, continue à m'écrire sur la main, c'est pas grave.
Oui, mais donc, le problème, moi, c'est pas les enfants qui me gênent.
Non, mais moi, je suis partagée parce que moi, ce ne sont pas les enfants qui me gênent, c'est les parents. Moi, je suis navrée, ça m'est arrivé aussi de faire justement le Paris-Nice, parce que comme je pars en avion, je suis obligée de prendre le train. Franchement, en plus du bruit, parce que les parents ne disent pas à leurs enfants de parler moins fort, vous avez la saleté. Vas-y, oui. Que je te jette les chips par terre, je t'écrase les chips, je te renverse le Sprite, etc. Mais c'est les parents le problème.
Donc, faut faire des espaces sans parents.
Voilà. Je suis pour qu'on verbalise les parents qui ne tiennent pas leurs enfants. C'est pas l'enfant qui est responsable, c'est les parents.
Donc, le problème, c'est un débat sur l'éducation.
Voilà.
Mais c'est pas un débat sur le fait que les enfants, ça fait trop de bruit.
De quel droit? Non, mais là, franchement, de quel droit? Cette députée peut légiférer sur des offres privés. Commerciales et des espaces privés.
Mais parce que Lyotte, ils n'ont rien d'autre à faire.
Ça, c'est bien le problème.
Parce qu'il y a plus de 500 députés qu'il faut chacun exister.
En ce moment, tu crois qu'en ce moment, les députés servent à quelque chose? Il faut bien qu'ils s'occupent. Regarde, Madame Guettet avec sa loi sur l'amitié, elle, la loi sur les no-kids, ils n'ont rien d'autre à faire, ils s'ennuient.
Les enfants sont de moins en moins tenus. C'est un constat. Et donc, il y a de plus en plus de perturbations dans des lieux publics, notamment des restaurants. Aller au restaurant, ça coûte de l'argent. Ça peut être une réjouissance si vous avez des enfants qui font des ordres à côté. Pas plus tard que samedi dernier, je suis allé dans un très bon restaurant. Non, je
à Paris.
Serai discret, non.
C'était un restaurant avec un grand M jaune sur la devanture.
Voilà, c'était à l'étranger. Bon. Et très bon restaurant qui m'avait été recommandé. Et bon, je réserve au dernier moment par une facilité. J'ai la chance de pouvoir avoir le couvert et je me retrouve avec une grande table de personnes avec des enfants. Alors ils étaient en réjouissance familiale et ouais, bon alors je dis pas de chance mais comme j'arrive au dernier moment je m'écrase etc et au bout d'une demi-heure j'ai appelé la tenancière, je lui ai dit s'il vous plaît est-ce que vous pouvez me donner une autre table.
Je me suis
déplacé et quelle bouffée, quelle tranquillité de ne plus avoir ces enfants.
C'est-à-dire qu'est-ce qui se passait à côté de toi?
Les enfants bougeaient, ils se suspendaient à un bar. Il revenait à table, il y avait un type un peu dans ton style, Bruno.
Beau gosse.
Avec toute, non, avec une queue de un artiste à la con avec une queue de cheval, il prenait son gosse, il le paluchait, etc. Le gosse. Il lui disait c'est bien mon petit, il le paluchait, voilà. Il était content.
Moi, je pense quand même qu'on est dans un monde. On ne supporte plus l'autre. Je suis désolé. Moi, la dernière fois, j'ai pris le TGV. C'est pas les gosses qui me gênaient, c'est le type qui était juste à côté de moi et qui pendant 3 heures a passé des coups de fil.
Oui, mais l'un n'exclut pas l'autre.
Oui, non, mais je veux dire, on trouvera toujours quelqu'un qui se comporte mal, qui n'a pas d'éducation.
Il faut vivre avec les autres.
Moi, je pense qu'on ne supporte plus l'autre. D'ailleurs,
il
n'y a jamais eu autant de célibataires, mais parce qu'on se porte même plus le coup.
Non, je suis désolé. Quand t'as un gosse qui se suspend à un comptoir 2 mètres devant toi, c'est insupportable.
Oui, mais alors on trouvera toujours des exemples de gens qui se comportent mal, donc on ne supporte plus l'autre. Il va falloir quand même qu'on réapprenne peut-être à vivre ensemble. Oui,
et j'aimerais bien, sinon, moi, par exemple, qu'on ne me demande pas à mes chiens qui sont petits, voilà, de leur mettre une muselière, par exemple. Non. Voilà, donc moi, mes chiens, ils sont tranquilles sous mon siège, ils ne dérangent personne. Oui, bah justement, tu peux te faire mordre aussi par un gosse. Bon, ben voilà. Ou par un enfant. Et je peux me prendre un coup de boule de celui à qui je dis, vous ne pouvez pas les téléphoner sur la plateforme, lui, il peut me mettre ou un coup de boule ou un coup de couteau. Mon chien, il ne mordra jamais personne.
C'est des bêtes, c'est des animaux, ils font ça.
Moi, mes chiens n'ont pas l'habitude d'avoir une muselière et c'est un traumatisme.
Bonsoir, bonjour Audrey. Bonjour Audrey.
Bonjour.
Audrey qui est Audrey est prothésiste ongulaire.
Ah oui, ça lui met des faux ongles.
J'ai eu beaucoup de métiers, mais celui-là plus important par rapport à ce qu'on est en train de parler.
Mais justement, attendez un mot quand même. Prothésiste ongulaire, et ça va le business en ce moment? Ouais. Ah oui.
Parce que Alain est très intéressé.
Oui.
C'est un petit peu toujours compliqué, mais on peut pas faire autrement que essayer de se faire plaisir un minimum en étant un petit peu joli. Et puis toujours les mariages, les choses comme ça, on a.
Voilà. D'accord. Bon, le business va bien et tant mieux. Alors, que pensez-vous de ces espaces sans enfants? Et maintenant, on veut interdire tous ceux qui veulent proposer des espaces sans enfants. Dites-moi.
Alors, moi, j'ai réagi à l'origine puisque moi, ce qui me paraissait évident, c'est qu'il y a des endroits où c'est normal qu'on n'ait pas d'enfants. Donc moi, le premier truc qui m'avait choqué entre guillemets, mais finalement qui était très logique, c'était les dentistes. J'ai 3 enfants, je suis mère célibataire, et le dentiste refusait de me recevoir avec mes enfants, avec mon bébé. Voilà, il me dit tout simplement, il n'a pas resté tout seul dans la salle d'attente, il n'a pas à venir avec vous, avec moi dans le cabinet, puisqu'il y a des produits. Et aujourd'hui, je ne peux pas faire autrement, puisque moi, quand je fais des ongles, je ne peux pas me permettre, comme ça m'est déjà arrivé, d'avoir la maman qui s'arrête pour tenir le bébé, ou les enfants qui vont sentir les choses. Ce n'est pas possible.
Bien sûr.
Où est le problème alors? C'est normal que chez le dentiste on aille sans enfant. Et chez vous on va sans enfant. Oui, parce que sinon ça perturbe.
Oui, mais il y a une différence.
Beaucoup de femmes allent au coiffeur avec leurs enfants.
Mais les enfants font n'importe quoi dans le salon ensuite, c'est ça?
Oui, mais c'est pas tout à fait la même chose. Là, je suis désolé. Mais non.
J'ai eu un incendie il y a des années. J'ai fait énormément d'allers-retours en train entre Paris, Besançon. Mes enfants, il y a des fois où j'ai pas eu de place de train en seconde classe. Je me suis retrouvée des dimanches soirs en première classe pour faire 3 heures de TGV, etc. Il y a des jours, ça a été compliqué.
Donc ça veut dire que vous voulez que les enfants ne soient plus dans les trains, quoi, en fait. Mais, parce que si on va au bout de la logique.
Qu'est-ce que ça peut faire qu'on ait des wagons sans enfants? Moi, ça m'aurait pas gêné.
Et parce que c'est pas le monde familial dans lequel on doit vivre, excusez-moi. Parce que si on commence à faire des trucs sans enfants, on va discriminer.
Mais Audrey, on est d'accord.
Faire qu'on ait un wagon. Avant, on avait des wagons fumeurs.
Non, on les a fermés.
Mais Audrey,
on est pour la santé. Mais à l'origine, celui qui voulait pas fumer, il allait pas dans le wagon.
Ah ben on peut comparer les enfants avec des cigarettes, je veux bien, mais non, quand même,
c'est un peu le cas.
C'est une question de gêne.
Mais Audrey, justement, les enfants, ils gênent parce que les parents leur disent, bah vas-y, continue à gueuler, écoute ton film sans les écouteurs, etc. Donc, si un enfant, il est correctement éduqué, il va faire un bruit normal d'enfant. C'est un nourrisson, il peut pleurer un peu, mais c'est normal. Un enfant peut un petit peu pleurer.
Je supporte plus la vie.
Je ne comprends pas. Ce sont les parents qui sont responsables. J'ai déjà voyagé avec des enfants très calmes.
Mais ça n'empêche pas. C'est exactement comme quand dans l'avion on dit tu as une classe à faire et si tu as les moyens tu te payes ta classe à faire et le reste.
Oui,
mais si, c'est pareil. Pas, si tu veux, si tu veux, mais non, mais on te fait une offre commerciale en disant monsieur, si vous voulez être peinard, si vous voulez être tranquille, il y a une voiture où vous payez plus cher, vous avez tout le service, vous n'avez pas d'enfants.
Bon, donc les enfants deviennent un problème.
Non,
c'est parce que les enfants
sont de moins en moins bien élevés, de plus en plus bruyants.
Non, mais ça c'est
honteux.
Oui, mais là on enfonce les portes ouvertes. Non, bah, c'est marrant, puis en plus c'est les mêmes qui disent il faut faire plus d'enfants, il n'y a pas assez d'enfants. C'est moi, les mêmes qui valident ces espaces sans enfants.
C'est pour ça que moi je verbaliserai les
Emmanuel veut faire des enfants mais il ne veut pas les élever.
Ça ne me dérange pas les voir.
Les gens veulent faire des enfants mais il ne faut surtout pas les voir.
Mes enfants pour l'instant sont très bien
élevés. Moi ça ne me dérangerait pas demain. Je pourrais très bien, moi, demain aussi, si on me dit il y a un hôtel, tiens, sans enfants, et si je suis fatigué, j'ai envie de me reposer, j'ai pas envie d'avoir de cris ou je dis je vais prendre l'autre.
Mais il y a même des établissements pour gays. Il y a même des hôtels pour gays. Pourquoi il n'y aurait pas des hôtels sans enfants?
Dans un pays qui vieillit avec des vieux qui ne supportent plus rien, parce que quand on vieillit, on supporte moins le bruit, on supporte machin, ça va se multiplier, c'est sûr. Ah, mais vous allez voir, de toute manière, déjà, on a une politique qui privilégie quand même plutôt les retraités plutôt que nos jeunes. C'est-à-dire que quand on fait des économies, c'est avant tout sur les jeunes, c'est rarement sur les retraités. Et là, on va être dans ce pays-là. Mais vous allez voir. Mais bien sûr.
Vraiment,
c'est un cauchemar.
Des trains sans vieux, moi, ça m'intéresserait pas mal.
Que vous êtes en train de préparer.
Des trains sans vieux, ça m'intéresserait.
Nous sommes avec
mon fils partout.
Et moi, mes chiens partout.
Alors, c'est bien un problème.
Parfait.
Nous sommes avec Vincent, qui est chef d'équipe à la RATP, pour conclure. Bonjour, Vincent.
Bonjour, les grandes gueules.
Et bonjour. Et vous, qu'en dites-vous, alors?
Oh, ben moi, quand j'entends Olivier, je suis effaré. Alors, je dois supporter les enfants des autres qui ne savent pas élever leurs enfants. Vous voulez pas que je les élève aussi, donc, non? Moi, j'ai eu deux enfants. Je les ai parfaitement bien élevés.
Ouais, voilà, c'est toujours ce qu'on dit, ouais.
Il y a un moment, moi, quand je prends j'ai 54 ans, quand je prends le train, je veux être tranquille. J'ai pas envie de supporter les sauvageons des autres. Il y a un moment, en quoi ça gêne? Alors, Olivier dit, oui, mais il faut qu'on fasse plus d'enfants. Ah ben, c'est pour avoir plus de sauvages, ça m'intéresse pas, hein.
Moi, j'adore Vincent parce que nos enfants sont toujours bien élevés. Le problème, ce sont toujours les enfants des autres.
Exactement.
Ah ben, écoutez, moi, en attendant, cher Olivier, mes enfants n'ont jamais fait de garde à vue. Mes enfants ont très bien travaillé à l'école. Il y en a une qui fait des études de droit, l'autre qui a monté sa société. J'ai jamais eu de plainte quand j'étais invité chez les gens, on me disait félicitations pour l'éducation de tes enfants.
Donc c'est possible, Vincent. Donc vous voulez exclure tous les enfants parce que certains enfants sont mal élevés.
Non, c'est pas ça qu'il dit.
C'est marrant quand même.
Non, Olivier, je veux la tranquillité.
Mais moi, la tranquillité, pardon, quand je prends, vous êtes à la RATP, quand je prends le métro, c'est pas les enfants qui me dérangent, hein, excusez-moi.
Oui.
C'est pas les enfants. Moi, je vais dans le sens. Dans le métro, ce qui me dérange, c'est les types qui sont avinés, qui sentent mauvais, qui ont l'air dingos. Mais pardon, je n'oserais, si je commençais à dire, si je commençais à dire, j'aimerais bien avoir des trains sans les types avinés, machin, on m'accuserait d'être discriminant, raciste, etc.
Mais
oui, mais quand c'est les enfants, c'est pas grave. Là, il n'y a pas de problème. On peut faire la discrimination, mais uniquement sur les enfants.
Mon cher Olivier, je suis d'accord avec vous, mais dans ces cas-là, c'est aux politiciens qu'il faut demander ça. À nos politiciens qui n'ont pas de courage. Et non pas à nous, les agents.
Vincent, pas à vous, bien sûr, Vincent.
Je vous remercie d'avoir été dans les GG, dans les grandes gueules.
Merci, je vous en prie, les grandes gueules.
Merci, Vincent, d'avoir conclu notre discussion. Vincent, 11h20, faut-il interdire les espaces sans enfants? Alors, on dit bien interdire les espaces qui veulent interdire les enfants. Non.
Voilà.
À 68%. Et on veut garder les espaces sans enfants, c'est ce que ça veut
exactement.
Dire.
Exactement.
Voilà.
On veut garder les espaces sans enfants. On veut pouvoir continuer d'avoir une offre commerciale
comme quoi,
sans
comme
enfants.
Comme quoi, même les meilleurs avocats, comme Olivier, avec une mauvaise cause, ont du mal à gagner les procès.
Mais oui,
il n'y a pas de mauvaise cause.
Il y a que des mauvais avocats.
Est-ce que taper l'Iran, frapper l'Iran, c'est une bonne ou une mauvaise cause? On va en parler avec les grandes gueules. Il est 11h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules. On continue la discussion avec les GG, avec les grandes gueules, avec Bruno Poncet, avec Emmanuel De Villiers, avec Barbara Lefebvre. En attendant, Marion Maréchal, tout à l'heure avec nous, à partir de 11h, elle se raconte, elle parle de ses convictions politiques, Marion Maréchal, dans ce livre, Si tu te sens Le Pen. Alors, Marion Maréchal, est-ce qu'elle pourrait rajouter Marion Maréchal Le Pen? Est-ce que ça pourrait revenir, Si tu te sens Le Pen, aux éditions Fayard? Elle sera avec nous tout à l'heure à 11h. En attendant, on va regarder la situation internationale. Et là, le curseur s'est déplacé de l'Ukraine vers le Groenland et maintenant du Groenland vers où? Et bien vers le golfe Persique. puisque le porte-avions Abraham Lincoln s'est positionné avec toute sa puissance de feu face à l'Iran. Est-ce que Donald Trump doit frapper l'Iran, oui ou non? C'est au 32-16, vous en parlez avec les GG.
Difficile de comprendre ce que veut Donald Trump, puisque, souvenez-vous, pendant la révolte iranienne, c'était au début du mois, il avait appelé les manifestants à continuer à sortir, à prendre les institutions, donc carrément à renverser le régime, en leur disant « j'arrive, je vais moi-même intervenir ». Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Les mollahs ont réprimé d'une façon assez horrible cette révolte. On a aujourd'hui les premiers témoignages, puisque petit à petit Internet revient. On parle de dizaines de milliers de morts en deux jours, tués à l'arme lourde. On parle de gens qui ont été exécutés, des jeunes pour la plupart. On parle même de médecins qui, parce qu'ils ont soigné des manifestants, se retrouvent aujourd'hui en prison. On parle de pendaisons. Bref, on parle d'un régime qui s'est retourné contre son peuple. Et Donald Trump nous explique que l'Iran, ce régime-là, est prêt à négocier sur le nucléaire. Il va même plus loin, il voudrait finalement refaire l'accord sur le nucléaire qu'il avait lui-même annulé. C'était l'accord qu'avait signé à l'époque Barack Obama avec les autorités iraniennes. Donc on a quand même du mal à comprendre la position du président américain, alors qu'il continue à menacer. Il dit, s'il n'y a pas d'accord sur le nucléaire, vous verrez ce que je vais faire. Mais c'est vrai que si on se met à la place des Iraniens qui, pour certains, ont payé leur vie cette révolte, les hésitations de Donald Trump, les déclarations contradictoires, ça doit quand même être particulièrement choquant.
Est-ce qu'il faut frapper contre Téhéran ou pas, Bruno?
Déjà, moi je pense que c'est pas la solution, parce que si tu frappes Téhéran, ils ont déjà assez souffert dernièrement. On parle de plus de 30 000 morts quand même. Les images qui arrivent, c'est effroyable. Tu vois des sacs poubelles où il y a des corps dedans dans plein d'endroits. Et si tu frappes l'Iran, c'est-à-dire que tu vas encore frapper le peuple. Est-ce qu'ils ont besoin de prendre des bombes sur la gueule après avoir...
Ce serait pas le peuple qui serait visé, ouais, ça serait, j'imagine, Olivier, des sites...
Tu sais très bien comment ça marche. Ils ne visaient pas le peuple dans certains endroits et à chaque fois, c'est là que ça tape.
La guerre des 12 jours, il n'y a pas eu énormément de dommages.
J'ai pas vu que Trump a gardé 12 jours. Et puis, quand tu vois ce qu'il a fait au Venezuela, c'est-à-dire qu'il a retiré Maduro, ok, mais que là, aujourd'hui, il n'y a aucune solution derrière et que tout le monde dit, vas-y, barrez-vous.
Il y a beaucoup d'Iraniens qui souhaitent cette intervention.
Ils le souhaitaient au début. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils le souhaitent maintenant, parce qu'en fait, déjà, c'est un peu tard. Et puis, deuxièmement, à un moment donné, tu mets quoi derrière? C'est-à-dire qu'on est aussi dans un pays aujourd'hui où il n'y a pas derrière d'alternative. Et puis surtout, enfin, les mollahs, faut tous les faire sortir. Parce que on est quand même face à une oligarchie qui maltraite son peuple, mais de tout le niveau. Il faut quand même savoir qu'en Iran, les produits de première nécessité sont vendus d'abord à l'oligarchie, qui les revend après au peuple plus cher. Donc en fait, les mecs, ils font, c'est quand même, enfin, c'est tout est.
Le guide suprême est l'un des hommes les plus riches au monde.
Exactement. Et puis tout l'argent qu'il a touché dernièrement, quand Trump avait redonné les avoirs aux Iraniens, c'est quand même lui qui l'a fait dans son premier mandat. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, est-ce que c'est la solution de bombarder un peuple qui souffre déjà? Je suis pas sûr. Par contre,
c'est pas le peuple qui serait bombardé. Tu peux pas aller.
Oui, mais je te dis, à un moment donné, Olivier, bombardements, oui. ça touche non, toujours non. Le peuple à côté. Faut arrêter de croire que Emmanuel. Tu vis juste comme le mec.
Bien que soutenant le président Trump dans sa politique volontariste de restauration de l'Amérique, là il y a une perplexité quand même, effectivement, parce que je trouve que ça fait beaucoup de front. Et comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Il y a eu cette opération au Venezuela très spectaculaire, assez mystérieuse, puisque par exemple une trentaine de supposés gardes du corps cubains sont revenus à Cuba dans des tout petits cercueils. Il y a des choses mystérieuses dans toute cette opération, mais ça a galvanisé un peu le pouvoir militaire américain. Et là, je trouve que ça fait beaucoup de front. Ça fait beaucoup de front, puisque il y a la guerre au Groenland. Il y a évidemment la tragédie en cours toujours de l'Ukraine, qui devrait plutôt focaliser tout le monde aussi que de chercher d'autres fronts, comme par exemple Cuba. Donc ça fait un halo un peu de confusion. Il y a la puissance américaine qui, quand elle se déchaîne, devient incontrôlée. Et puis j'ajoute, objectivement, l'âge du président Trump. On connaît tous des vieilles personnes avec beaucoup de pouvoir. Et à un moment donné, on peut perdre un peu pied. Donc moi, personnellement, je suis dans la perplexité quant à cette opération.
Des jeunes aussi qui passent leur temps à faire des conseils de défense tous les 4 matins. Excuse-moi.
Oui. Et il va être difficile, simplement par des tapis de bombes, de faire tomber, malheureusement, le régime iranien. Parce que on sait que c'est ce type d'opération n'amène que des destructions ciblées, mais sans changement politique.
Alors de toute façon, Donald Trump, il y va pas, ça va pas. Il y va, ça va pas.
C'est vrai aussi.
Quand est-ce qu'il y va, ça va pas? Ah, il avait dit qu'il irait, mais ça va pas. Enfin, j'adore les éditorialistes. Alors, j'adore. Je les écoute plus parce que ça, vraiment, ça me met les nerfs en pelote. Alors, il intervient sur un truc. Ah, vraiment? Vraiment, Trump, quelle horreur, machin. Après, c'est. Alors, quand est-ce qu'il intervient en Iran? Ah, bon. Après, comment il intervient? Il envoie telle arme. Ah, ça va pas, l'arme. Non, mais, c'est les observateurs, des gens qui sont des impuissants, qui n'ont aucun moyen de venir aider l'Iran, et qui se permettent en plus de critiquer seul qui pourrait faire quelque chose.
Il y en a aussi qui étaient pour l'intervention, et qui sont déçus qu'ils n'interviennent pas aussi.
Tout à fait. Voilà. Donc, les Iraniens, notamment tous ceux qui manifestent régulièrement, y compris à Paris, sont pour une intervention américaine, ils sont pour une intervention même peut-être appuyée par d'autres puissances régionales. Les puissances autour de l'Iran s'inquiètent, y compris Israël, parce que l'Iran a dit qu'ils allaient également intervenir. Maintenant, ce qui est la réalité, c'est que ces frappes, elles doivent permettre de renverser le régime des Mollahs, mais surtout, de renverser le régime des Pasdaran, c'est-à-dire les gardiens de la révolution qui attendent derrière. Parce qu'aujourd'hui, 50% de l'économie iranienne, elle est aux mains des Pasdaran. C'est-à-dire que les Mollahs, les enturbanés, tu les dégages. De toute façon, il partira avec ses 95 milliards, l'autre espèce de vieux crouton de Khamenei qui a massacré son peuple. Ces gens-là, on devrait passer par les armes. On devrait même pas. J'espère qu'il va pas faire comme Assad et s'enfuir au Kremlin. J'espère que celui-là, on va
le voilà. À Moscou.
Par contre, à New York. C'est tous les Pasdaran dont il va falloir se débarrasser. C'est pour ça que c'est important de les inscrire sur la liste des organisations terroristes. Parce qu'après, il faut pas que ces gens-là, ils arrivent à se refondre.
Et l'Union européenne l'envisage. Oui, alors on a Eshan qui
France
est avec
Macron,
nous. Bonjour.
Justement.
J'espère que je prononce bien votre nom, Eshan. C'est
j'ai
ça.
Pas pu dire Eshan, ce que je voulais.
Eshan, pardon.
Bonjour à tous.
Du Val d'Oise, vous êtes iranien en France depuis une dizaine d'années, c'est ça?
Oui, depuis 2003, une vingtaine d'années.
Une vingtaine d'années. Est-ce que les États-Unis doivent frapper l'Iran ou non?
Oui, s'il vous plaît, je vais juste intervenir rapidement. Donnez-moi juste une minute. Ne me coupez pas. Je vais tout vous dire. Juste, Madame Barbara, je vous adore, je partage vos opinions. J'ai partagé la même classe que Monsieur Constigny en 2003, en troisième quand je suis arrivé.
Ah
c'était
bon?
Juste voilà, un petit mot, oui. Et juste pour vous dire qu'en fait, je vais vous dire la voix de 80% des Iraniens, même 90% des Iraniens. Il faut intervenir en Iran, ça sera jamais pire de ce qui est actuellement. Ils ont tué tout le monde chez nous. Sur les médias, je lis des commentaires. Les mêmes personnes qui ont défendu Gaza, ils disent qu'en effet, ces informations sont des mensonges, que c'est des manigances de l'Occident. C'est pas vrai. Moi-même, j'ai quelqu'un qui a été tué pendant les manifestations. Un jeune garçon de 17 ans a été tué dans les manifestations. Son père est parti le ramasser à Khair Isaac. Il a cherché pendant des heures. Il a regardé la tête de 900 personnes pour retrouver son fils. Tout ce que vous voyez, tous les médias, tout ce qu'ils vous disent, c'est vrai. Les chiffres sont vrais. Il faut intervenir en Iran. Nous,
de quelle manière?
On préfère n'importe quelle manière. Il faut faire tomber les Mollahs. Il faut tuer Khamenei. Il faut donner des armes aux gens. Il faut armer le peuple iranien. Nous sommes un peuple très très instruit, très éduqué. Nous savons nous défendre. On a juste besoin d'un coup de main. Il faut demander même à la France de tout le monde intervenir.
Et vous pensez pas aussi qu'il faut absolument, parce qu'aujourd'hui l'armée, il y a une double armée en Iran, il y a l'armée régulière et il y a l'armée des Pasdaran. L'armée des Pasdaran, ils sont presque 200 000 soldats. Donc ceux-là, il va falloir s'en occuper sérieusement.
C'est une milice. Hein.
Et donc quand vous dites donner les armes,
il faut les éliminer tous. Il y a plus de négociations possibles.
Mais moi je suis d'accord avec vous, vous rendez compte, ça voudrait dire donc une intervention sur le terrain des GI.
Au sol.
Or, les Américains ne veulent pas y aller au sol. Donc est-ce que le peuple iranien il peut le faire aujourd'hui?
Madame Barbara, tout ce que je veux vous dire, c'est que si la Mossad et la CIA veulent intervenir, veulent faire tomber quelqu'un, ils le font. Il faut qu'ils le fassent. Nous avons partagé, le peuple iranien, le peuple perse a partagé une grande histoire avec le peuple israélien. Nous, on n'est pas comme les autres pays du Moyen-Orient. Nous sommes différents, on a une culture très très différente. Nous, on est indépendants, on veut être comme on est. Juste, il faut nous aider à nous débarrasser de ces gens. On ne peut pas manifester, on ne peut rien faire. Ils nous tuent tous. Dès que vous sortez à 20h du soir, ils vous tuent. C'est comme ça.
C'est ce qu'ils ont fait.
Et ça,
vous imaginez, mais c'est vraiment comme ça. Je peux vous assurer que c'est comme ça.
Et le peuple iranien est un peuple très patriote. Qu'est-ce qu'il disait dans les rues? Ni Gaza, ni Liban, je donne ma vie pour Téhéran. Voilà, c'est ça le peuple iranien.
Merci,
c'est pour ça qu'il faut aller
de ce témoignage.
Au lieu de critiquer Trump.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.